France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Vous avez sans doute remarqué ce léger glissement sémantique avant un au revoir ou une signature de mail. Joyeuse fête plutôt que joyeux Noël. Il y a là plus qu'un détail. En octobre dernier, le premier syndicat des enseignants des collèges et lycées a proposé de retirer les mentions Toussaint et Noël dans le calendrier scolaire. Proposition ayant reçu un avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, mais proposition retoquée par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, Noël est-il devenu politiquement incorrect? Faut-il débaptiser Noël? Deux invités pour en parler ce soir. Alain Cabantous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur émérite à Paris 1, co-auteur avec François Walter du livre intitulé « Noël, une si longue histoire » qui a paru en 2016 aux éditions Payot. Face à vous, Laurent Gibowski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Témoignages chrétiens, co-auteur avec Anne Guillard du livre intitulé « Une autre église est possible », un ouvrage qui a paru en 2019 aux éditions du Temps Présent. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans « Questions du soir ».
C'est un rappel historique de ce qu'est Noël. Hein. Et Noël, c'est la naissance du Christ hein, et les racines chrétiennes de la France. Et donc, très simplement, il y a des Agnérois qui viennent voir cette crèche et ils sont contents, ils sont détendus, qu'ils soient catholiques, musulmans, juifs, athées, agnostiques. Donc c'est ça le vivre ensemble.
Je suis musulman, mais ça m'est égal. Au contraire, mes enfants, ils sont très contents quand ils voient ça.
Noël, c'est une fête chrétienne, donc il n'y a rien d'étonnant à... Parce qu'il y a une crèche.
Ça marque la fête de Noël. Il faut en profiter et c'est bien pour tout le monde.
Je crois qu'il a un message idéologique à faire passer, qui est simple. C'est un message que je connais, c'est-à-dire que la laïcité, c'est bien, mais pour la religion des autres. Voilà. Mais pour ma religion, la religion chrétienne, elle doit continuer à être honorée comme elle l'a toujours été, parce que c'est l'identité de la France. Et le message politique est celui-là. Moi, je dis que c'est une forme d'entrisme catholique.
Le maire d'Asnières, puis des habitants d'Asnières, puis le sénateur PCF des Hauts-de-Seine, Laurent Gibowski, lorsque le maire d'Asnières nous dit « Noël, au fond, c'est fait pour célébrer la naissance du Christ, c'est un rappel des racines chrétiennes de la France », est-ce que c'est cela et d'abord cela, Noël, aujourd'hui ?
Moi, je crois que Noël, aujourd'hui, c'est d'abord un temps de fête dont notre société a besoin, comme d'autres fêtes, et que je trouve un peu, honnêtement, un peu pitoyable ce débat autour d'une laïcité mal comprise, d'une laïcité qui considère que les religions doivent disparaître de toute mention publique, de l'espace public, enfin, de l'espace partagé, en l'occurrence, parce qu'on confond service public et espace partagé. Et donc, je trouve ce débat, pour tout dire, un peu bébête. Quoi.
Ce que vraiment... vous trouvez pitoyable, pardonnez-moi, pour bien comprendre votre position, c'est le débat en tant que tel, ou c'est la volonté de vouloir et débaptiser Noël et retirer le terme même Noël des calendriers?
Oui, c'est-à-dire que ce que je trouve pitoyable, c'est le débat qui est sur des mauvaises bases. La laïcité n'est pas l'effacement du religieux, ni l'effacement de notre culture. Et moi, je défends pas Noël de manière identitaire, j'ai aucun drapeau à mettre en avant, et je ne suis pas à dire Noël, c'est une fête chrétienne. Que Noël soit ce qu'elle est pour chacun. Si pour les uns, c'est une fête chrétienne, tant mieux. Si pour les autres, c'est une fête de famille, très bien. Nous sommes dans une société pluraliste. Et pour moi, la laïcité est là pour permettre ce pluralisme-là, sans que personne ne prenne le pouvoir l'un sur l'autre, vous voyez. Et donc, je trouve que ce débat est petit et mesquin. Je veux dire, et en même temps, je trouve que c'est important de respecter les fondamentaux de notre culture. Alors, aujourd'hui, les gens sont déjà complètement paumés, c'est la crise à tous les étages. On a des questions identitaires. En faisant ce genre de débat, on encourage finalement les identitaires à sortir le drapeau et à dire, on va défendre Noël, on est attaqué, les chrétiens sont attaquer, c'est de la christianophobie. Cette réaction est tout aussi ridicule, mais elle est encouragée par ceux qui veulent absolument effacer Noël de notre culture d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut qu'on apaise tout ça et que moi, ça me gêne absolument pas en tant que citoyen français, catholique et républicain, que la Toussaint s'appelle les vacances de Toussaint, que Noël s'appelle les vacances de Noël. On a changé, alors c'est vrai qu'on a changé Pâques, mais pourquoi on a changé Pâques? Parce que maintenant, les vacances de Pâques ne tombent plus sur la fête de Pâques. Elles sont décalées puisqu'il y a plusieurs zones. Donc, on dit vacances
on dit
de printemps.
Je précise, on ne dit plus officiellement les vacances de Pâques depuis 1959.
Ah, depuis 59.
59.
Ah, oui. Officiellement. Parce
officiellement,
que...
officiellement. Ouais, ouais, ouais. On le dit encore dans le langage courant, je parle administrativement.
Mais voilà, je trouve ça un petit peu étroit, mesquin, et voilà. Donc moi, j'ai rien à défendre. Je pense que j'ai envie de renvoyer dos à dos les identitaires laïques et les identitaires catholiques.
On a bien compris votre position. Vous nous expliquerez par ailleurs comment apaiser tout cela. J'y reviendrai. Mais avant cela, Alain Cabantous, est-ce que vous partagez le scepticisme, pour dire le peu, de Laurent Gibowski?
Ah oui, tout à fait. Je suis absolument en phase avec lui. Et je dirais que ça, c'est un débat qui n'est pas d'aujourd'hui. Je voudrais simplement signaler qu'au moment de la réforme, c'est-à-dire dans les premiers tiers du XVIe siècle, Luther dit, bon, s'il faut fêter Noël, fêtons-le le 25 décembre. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Et chez les calvinistes, on supprime, notamment en Suisse, dans les villes suisses, on va supprimer la fête de Noël pendant plus de deux siècles. Donc, cette dimension-là, fêter Noël pour... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans le christianisme? Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est que cette volonté de transformer la titulature de Noël, ça non plus, ça n'est pas nouveau. C'est-à-dire que, en gros, dans la France républicaine et très anticléricale quand même de la fin du 19e siècle, il y a un certain nombre de gens qui disent, bon, appelons ça fête du solstice, appelons ça fête de l'hiver, appelons ça fête du sapin. Tous les libre-penseurs ne sont pas d'accord d'ailleurs sur ce plan-là, mais fêtons quand même quelque chose. Voilà, ça rejoint ce que disait Laurent tout à l'heure. On fête quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Bon, chacun y met ce qu'il veut. Bon, mais on dit c'est Noël. Enfin, ce qui m'étonne un petit peu là-dedans, c'est que je dirais le syndicat dont vous parliez tout à l'heure ne dise pas. Mais attendez, le dimanche.
Le FSU, SNUP, IPP.
Oui, oui. Supprimons le nom du dimanche parce que c'est Dies Dominicus, dimanche. C'est le jour du Seigneur.
Je reviens quand même un instant, Alain Cabantous, sur cette seconde critique de Noël que vous mettez en avant du point de vue historique, celle de la fin du 19e. La fin du 19e, c'est aussi un moment où Noël se transforme en tant que fête partagée. C'est une fête qui devient de plus en plus bourgeoise, notamment en France et en Allemagne. C'est une fête, par ailleurs, qui célèbre de plus en plus l'enfant, les enfants de toutes et tous. On peut comprendre que la critique, là aussi, évolue à ce moment-là.
Oui, mais ce dont vous parlez, la fête autour de l'enfant dans les pays germaniques, c'est le début du 19e siècle déjà. C'est bien avant. Et ça va, par capillarité, commencer à se développer dans la bourgeoisie française. Là, vous avez absolument raison. Mais ce n'est pas la pointe de la critique, disons, des anticléricaux, des libres penseurs à ce moment-là. La pointe, c'est de dire désacralisons Noël ou déchristianisons Noël. Voilà, autrement dit, c'est ça. Fêtons Noël, mais on le fête autrement. Et on va avoir, d'ailleurs, des choses tout à fait intéressantes. On va avoir des Noëls humaines, ça s'appelle comme ça, puis des Noëls rouges, entre les deux guerres, entre 1920 et 1936.
Dans les communes communistes.
Dans les communes communistes en particulier, eh bien, il va y avoir, par exemple, à Paris, dans le 13e, dans le 18e, dans le 19e, à Aubervilliers, à Bagnolet, enfin bon, le début de la ceinture rouge, hein, comme on disait à l'époque.
Et alors, comment ça se fête un Noël rouge?
Alors, un Noël rouge, ça se fête le 24 décembre, si possible. Il y a des réunions de gens, ils sont entre 400 et 500, 1000, ça dépend des années. Et puis, il y a des discours sur... Alors, c'est assez intéressant de lire ces discours, parce que ce ne sont pas toujours des discours anticléricaux. Par exemple, il y a une récupération de Jésus, quand même, en disant, oui, l'enfant Jésus, c'est quand même celui qui va devenir anticapitaliste, antimilitariste, anti-autoritaire, bon, etc.
Est-ce que c'est une récupération? J'en suis pas sûr. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce regard.
Quand je dis c'est une récupération, je veux dire c'est une récupération politique. Je ne dis pas que ce n'est pas un regard
juste. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a récupération, c'est celle du consumérisme. C'est-à-dire que la société de consommation... Pardon, oui, je suis désolé, j'avais envie de réagir sur la récupération.
Allez-y,
parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie récupération aujourd'hui qui est une récupération commerciale. Et c'est bien ça qui m'inquiète. Moi, ce n'est pas la sécularisation. La sécularisation, ça fait des décennies, voire des siècles, qu'elle est en marche. Et je pense qu'il faut que Noël, chacun la fête à sa manière. Il n'y a aucun problème. Par contre, ce qui me dérange énormément, c'est comment la société commerciale, la société marchande, a récupéré Noël pour en faire un Black Friday, un super Black Friday. Et ça, ça, c'est, pour moi, ça me terrifie. Parce que là, pour le coup, ça touche à l'âme de nos sociétés, ça touche à l'âme humaine, ça touche au sens de la spiritualité et du fait que Noël, pour beaucoup de gens, est une fête spirituelle. Et c'est ça qui réunit les familles, c'est ça qui donne de la joie, c'est ça qui... Et moi, je pense que la société marchande balaye tout sur son chemin et Noël est devenu un Black Friday supplémentaire, quoi. Ça, ça me terrifie.
Pour terminer, d'un mot, Alain Quimbantou, sur les Noëls rouges, pourquoi disparaissent-ils peu à peu après la Seconde Guerre mondiale? Est-ce parce que simplement le PCF, le Parti communiste français et l'Église romaine s'entendent de mieux en mieux?
Alors, c'est un petit peu ça. Sur le mot récupération, je le maintiens parce que c'est une lecture, une autre lecture théologique, bon, mais c'est quand même une récupération. Vous avez raison là-dessus. Il faut pas oublier qu'en 1936, par exemple, il y a la main tendue de Torres aux catholiques. Donc, on n'est plus tout à fait dans la même épure. Et puis, progressivement, il va y avoir un affaiblissement du Parti communiste français. Mais dans un événement dont on parlera probablement pas et qui a été là complètement instrumentalisé, c'est-à-dire l'affaire de Dijon en 1951, où on a brûlé le Père Noël, et où on a accusé l'Église d'avoir brûlé le Père Noël. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, enfin, peu importe. Eh bien, le Parti communiste français et le comité central du Parti communiste soviétique ont envoyé un message de félicitations à l'évêque de Dijon, qui n'en pouvait mettre parce qu'il n'était pas au courant.
Polémique autour de Noël, sur le terme même de Noël. Polémique aussi autour des symboles qui entourent Noël. On connaît évidemment le sujet régulier que l'on retrouve chaque année des fameuses crèches dans les mairies. On a entendu tout à l'heure le maire d'Asnières défendre la volonté justement d'abriter une de ces crèches dans ses mairies. Le tribunal administratif a tout de même demandé au maire de placer cette crèche en dehors de la mairie, ce qu'il a fait nécessairement. Mais pour vous dire que ce sujet n'est pas un sujet uniquement français. Selon The Sun, le quotidien britannique, dans plus des trois quarts des bureaux londoniens, les décorations de Noël auraient été déconseillées, voire interdites. Laurent Gibovski, là aussi, ces polémiques sur les symboles de Noël, comment est-ce que vous les interprétez?
Bah, d'abord, je trouve ça un peu attristant. Je vais y revenir.
Encore une fois.
Oui, encore une fois, parce que je pense que, comment dire ça, Noël. La question pour moi, ce sont des mauvaises lectures de la laïcité, si vous voulez, des mauvaises interprétations. C'est-à-dire que la laïcité, c'est pas d'évacuer tout ce qu'il peut y avoir de religieux dans l'espace public et dans la société. C'est au contraire
c'est
de
pas
permettre.
L'espace public, en l'occurrence, ce sont les mairies là dont on parle.
Eh ben, la mairie est un. Oui, alors c'est dans un lieu public, bien sûr. Mais moi, je suis pas plus choqué quand une mairie organise un iftar, par exemple, ou participe à des iftars. Justement, pour moi, la laïcité, c'est qu'il puisse y avoir et des iftars. Donc, pour nos auditeurs, rappeler l'iftar, c'est la rupture du jeûne pendant le ramadan. Mmh. Et il y a beaucoup de maires ou de qui participent à des iftars de manière un peu officielle dans leur commune. Et ben, ça me choque pas plus que de mettre une crèche dans la mairie. C'est-à-dire que.
Bon, mais la laïcité, c'est aussi la neutralité des agents du service public.
Et ben, la neutralité consiste à être accueillant envers toutes les religions, pas à les effacer.
Mais c'est pas non plus d'être œcuménique. Tu me permets de vous porter la contradiction. Hein.
Bonne remarque, oui, mais vous avez raison, c'est pas non plus d'être écuménique, mais je pense qu'il faut quitter tout mode de crispation par rapport à ça. C'est-à-dire que, si évidemment c'est une mairie, alors je vais pas citer de partis politiques, mais vous savez comme moi qu'il y a des partis plus identitaires que d'autres. Alors, si la question elle est identitaire, de manifester l'Occident chrétien, la civilisation chrétienne, moi évidemment ça me pose un vrai problème, parce que là on est loin de la laïcité, pour le coup. Mais si c'est l'idée de permettre un vivre ensemble, d'être à l'écoute, parce que vous pouvez avoir des communes, même des petites communes, où les habitants sont plutôt heureux qu'il y ait une crèche à la mairie. Donc, il faut se décrisper par rapport à ça, je pense. C'est très important. Mais des deux côtés, aussi bien du côté laïque que du côté de ceux qui voudraient instrumentaliser la religion pour en faire un outil identitaire ou un outil, vous voyez ce que je veux dire, de reconquête politique, sociale, etc.
Alors, que dit le Conseil d'État sur le sujet? Dans un bâtiment public tel que les mairies, l'installation d'une crèche n'est pas conforme au principe de neutralité, c'est ce qu'on disait, sauf si des circonstances particulières permettent de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. Votre position, Alain Quimbantou, sur le sujet?
Ma position, c'est celle du Conseil d'État, c'est-à-dire on est quand même coincé aux entournures, dans la mesure où, d'abord, du point de vue de la jury, de la jurisprudence. À chaque fois qu'il y a eu une demande ou une plainte de la part d'un certain nombre de gens, soit des groupes, soit des individus, le résultat a été extrêmement contradictoire d'une juridiction à une autre. Autrement dit, il y a des juridictions qui ont dit « mais non, il faut maintenir la crèche », et d'autres juridictions qui ont dit « non, il faut la supprimer ». C'est l'interprétation de la loi de 1905 qui est effectivement une interprétation, si on s'appuie à la lettre, effectivement, on n'a pas le droit, à la lettre, on n'a pas le droit de mettre des crèches dans l'espace public, ça c'est clair. Mais en même temps, la décision du Conseil d'État, je fais état de celle de 2016, mm-hmm. c'est de dire, on peut mettre aussi des crèches à condition qu'elles soient de petite dimension, que ça soit pas ostentatoire.
Enfin, faut éviter le prosélytisme, ouais. c'est la notion mobilisée par le Conseil d'État.
Pas de prosélytisme. Ce qui me paraît et je dirais, assez polémique, pour revenir à ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est les gens qui disent « Ah oui, mais on met des crèches, mais c'est pas cultuel, c'est culturel. » Mais enfin, c'est quoi ça hein ?
C'est-à-dire, c'est pas religieux, c'est pas...
Non, mais attendez, la religion fait partie de la culture, quand même. Je veux dire, il me semble. Enfin, les religions font partie de la culture. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que cette séparation qui est complètement fausse ? À mon avis, c'est pas un argument, ça. Et c'est encore moins un argument de dire c'est au nom des racines chrétiennes de la France. Certes, la France a des racines chrétiennes, mais enfin, elle a d'autres racines aussi. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement, si on regarde bien la couleur politique de des hommes publics qui ont. Pas des femmes publiques, mais des hommes publics qui sont montés au créneau, on se rend compte que c'est quand même plutôt la droite ou l'extrême droite, pour pas non plus se voiler la face. Hein.
Laurent Gibovski, sur cette distinction entre le cultuel et le culturel, est-ce que vous estimez vous-même qu'elle entretient le flou ?
Moi, je dirais pas que ça entretient le flou. Je suis assez d'accord avec la lecture de Monsieur Cabantou. Je pense que je pense qu'effectivement, il y a un lien étroit. Enfin, en tous les cas, on peut pas complètement les dissocier. Est-ce que ça entretient le flou ? Moi, je pense que tout à l'heure, vous m'avez repris. Vous avez raison que en me disant que la laïcité n'était pas l'œcuménisme. Il n'empêche que je pense que moi, je suis très engagé. Vous l'avez pas dit dans la présentation, mais je vous l'ai peut-être pas dit non plus. Mais je suis personnellement très engagé dans le dialogue interconvictionnel. Donc, le dialogue interconvictionnel. Il faut savoir, c'est le dialogue interreligieux, mais au départ, mais élargi à toutes les convictions les plus intimes, les plus profondes, donc athées, agnostiques,
humanistes. C'est pas seulement le dialogue interconfessionnel.
Voilà, c'est pas seulement le dialogue interconfessionnel, c'est toutes les convictions philosophiques, humanistes, etc. Et donc je suis très engagé là-dedans et je pense que les religions ont un grand rôle à jouer dans cette mise en œuvre d'une laïcité qui soit fidèle à la loi de 1905 et à son esprit, c'est-à-dire permettre un vivre ensemble. Il y a eu un grand événement à la mairie de Paris le 11 décembre dernier, avec toutes les religions qui étaient présentes et aussi beaucoup de convictions philosophiques et humanistes, pour fêter les 120 ans de la loi de 1905. Ça a été peu médiatisé, mais la salle du Conseil, l'hémicycle était plein, et ça a été un moment qui a été à l'initiative d'ailleurs de plusieurs communautés religieuses qui ont voulu fêter les 120 ans de la loi de 1905. Et je trouve que il faut pas opposer. Moi, je ne suis pas pour opposer le cultuel et le culturel, les distinguer certainement, mais pas les séparer, parce que tout ça est très lié.
Distinguer, mais pas les séparer.
Ben on peut distinguer sans opposer. Sans opposer, voilà, c'est ça. On peut distinguer sans opposer. Et je pense que c'est la richesse de notre pays. Enfin, la France est quand même un pays qui a été marqué par une culture chrétienne, par un culte chrétien aussi. Aujourd'hui, il y a encore des pratiquants, beaucoup moins, évidemment. Mais je pense que ce qui compte, c'est vraiment la liberté de conscience et la volonté de vivre ensemble et de pas de devenir des ennemis les uns avec les autres. Enfin, c'est fini ce temps. Enfin, pour moi, il devrait être fini ce temps où on s'oppose et où on instrumentalise les convictions les plus intimes, et notamment les convictions religieuses, dans l'espace commun, au lieu d'essayer d'en faire un outil de vivre ensemble.
Alain Cabantous, pour 9 Français sur 10, c'est ce que démontre une multitude d'enquêtes. Noël est important pour 9 Français sur 10, qu'ils soient chrétiens ou non, catholiques ou non, qu'ils soient musulmans ou non, peu importe, pour 90% juifs. Français, ou juifs ou non,
il y a beaucoup
sûr.
De juifs qui fêtent Noël.
Pour 90% des Français, donc, toute confession, comment se fait-il justement que Noël ait réussi à étendre son champ de presque j'allais dire de conviction pour le coup cette fois-ci et que Noël se soit sécularisé dans le temps.
Alors effectivement la réponse qu'on pourrait faire c'est enfin une des réponses qu'on pourrait apporter à votre question c'est de dire que Noël c'est une fête plastique. C'est-à-dire que Noël s'est transformé.
C'est pas une fête commerciale, c'est une fête plastique.
Alors, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une plasticité, voilà, si vous voulez. Ouais. Si l'adjectif vous embête, je vais prendre un substantif. C'est la plasticité de Noël qui fait que il y a eu une transformation à partir de laquelle. Je dirais, la référence religieuse chrétienne n'étant plus première, un certain nombre de gens s'y retrouvent. Mais on pourrait dire la même chose. Par exemple, au Japon, on fête le 25 décembre. Mais c'est la fête des fiancés. C'est pas la fête, mais on pourrait dire que c'est la fête de Noël, mais c'est parce que c'est le 25 décembre. Donc, cette espèce de, je dirais, d'unanimité ou presque, enfin, autour de la fête de Noël, résulte à la fois d'une forme de sécularisation, effectivement, mais qui est ancienne, qui est pas récente.
Quand est-ce que la bascule s'opère en France, par exemple?
Voilà. C'est très difficile à répondre, parce que, comme dans toute histoire culturelle, vous avez des formes de chevauchement, des formes de continuité, des mélanges. Enfin, on peut dire, si vous voulez, que à partir des années... 1800, quand on a des statistiques, 1850, 1860, on voit par exemple que la présence masculine au moment, alors si je prends l'observatoire qui est la mai de minuit, bon, prenons celui-là, il en voit un autre, bon, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'hommes, par exemple, à peu près partout. Ça ne veut pas dire que les églises sont vides, ça veut dire qu'il y a, je dirais, une espèce de transformation qui se passe et qui va se poursuivre et s'accentuer. Donc, ça, c'est un premier élément par rapport à la pratique. Un deuxième élément, c'est qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, à partir du premier 19e siècle, il va y avoir un recentrement sur l'enfant. Et puis, après, sur la famille. C'est ce qui fait que, par exemple, mais ça, c'est, je dirais, culturellement protestant, à la limite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de culte de la nuit chez les protestants. Hein. Donc, un pasteur berlinois avait proposé que la nuit du 24, on fasse un certain nombre, je dirais, d'actions. On propose un certain nombre de choses, de cantiques, de prières autour de l'enfant, à la maison. Autrement dit, il va y avoir aussi cette dimension familiale qui va se mettre en place. Et on dira, alors pour compléter ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est pas seulement la consommation, ça a été aussi la fête de la famille, même si aujourd'hui on peut s'interroger sur ce qu'est la fête de la famille au moment de Noël, puisqu'il y a des tas de familles éclatées. Qu'est-ce que je fais?
Il y a aussi beaucoup de gens. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont frappés évidemment par la solitude.
Ben bien sûr, alors évidemment.
Laurent Gibowski, en tant que chrétien, comment est-ce que vous abordez cette sécularisation de Noël? Est-ce que c'est un moyen aussi d'inclure des gens dans cette fête qui ne sont pas nécessairement chrétiens?
Oui, bien entendu.
Vous avez hésité.
C'est ce que j'ai... Non, c'est parce que j'avais envie de réagir en vous disant que c'est pas la sécularisation, moi, qui est un problème pour moi. La sécularisation, c'est un fait social depuis des décennies. Donc, ça m'interroge pas. Moi, j'aurais envie de dire qu'il faudrait plutôt christianiser Noël, mais le christianiser, pas de manière juste culturelle, mais se rappeler que Noël, c'est la fête des migrants, c'est la fête des gens de la rue, c'est la fête des pauvres. Et moi, c'est ça ma préoccupation. C'est comment l'Église catholique peut prendre au sérieux l'Évangile, ce qu'à mon avis elle ne fait pas suffisamment aujourd'hui, et ce qui explique aussi toutes les crises qu'on est en train de traverser, et qu'on reprenne enfin au sérieux l'Évangile, et qu'on devrait le jour de Noël, la veille ou le lendemain, parce qu'évidemment, la fête familiale c'est important, moi j'ai eu 4 enfants, et je sais tout ce qu'a représenté Noël pour notre famille, et c'était des rendez-vous très importants sur plusieurs générations. Ça aussi c'est très important de se rappeler que Noël c'est une fête intergénérationnelle, voilà, et ça c'est magnifique, donc hors de question pour moi dans le ce plaisir hédoniste. Voilà, Noël, c'est aussi une fête hédoniste. Et ça, je l'assume.
Mais j'aimerais revenir aux évangiles.
Mais revenir aux évangiles et de se rappeler que Noël, justement, c'est pas la fête de la consommation. Moi, je suis pour la sobriété heureuse. C'est mon petit côté écologique. Mais je le suis aussi en tant que chrétien. Je pense que nous consommons beaucoup trop. Nous sommes en train de tuer la planète et de tuer notre âme. Parce que ce qui fait la fête de Noël, c'est le lien, c'est la relation, c'est l'accueil des petits, des pauvres, des exclus. Et là, je pense que l'Église devrait, quand je dis l'Église, c'est tous les chrétiens, c'est pas juste le pape et les évêques, hein. D'ailleurs, le pape a écrit une lettre magnifique sur la pauvreté, en disant que le rapport aux pauvres, c'est pas de faire la charité, d'être gentil, parce qu'on est chrétien, on va faire la charité aux pauvres, mais que c'est la rencontre avec le Christ lui-même, avec Dieu lui-même. Quand on rencontre le pauvre, on rencontre Dieu lui-même. C'est révolutionnaire comme message. Mais il est pas entendu, ce message. Je trouve qu'il n'est pas suffisamment entendu, et que pour moi, Noël devrait nous rapprocher des plus pauvres, nous passer du temps dans la rue, aller faire des maraudes, etc. Ça serait Noël.
Voilà. Alain Cabantous, vous semblez en désaccord. Vous avez
Non, je suis pas en désaccord. Je dis simplement
vous avez marqué un désaccord physique.
Je dis simplement que la lettre du pape,
l'exhortation apostolique,
tu faisais allusion.
Oui.
Je dirais parmi les expressions. Rencontrer le pauvre, c'est rencontrer le Christ. Ça, on trouve ça depuis pratiquement le début du christianisme, ou presque. Hein, c'est pas nouveau. Et il y a toute une dimension sur la relation entre la pauvreté, le pauvre, image du Christ, qui va se développer à l'époque médiévale de manière absolument extraordinaire. Donc ça, c'est revenir à des fondamentaux, si je puis dire. Hein. Ouais, tant mieux. Hein,
mais est-ce que c'est vécu,
Laurent Jubowski?
Voilà. Oui, pardon.
Ah oui, voilà.
Oui.
Mais ça, c'est
désolé,
autre chose.
J'ai tendance.
Non, non, vous avez raison. Vous pouvez faire. On partage les questions ce soir. C'est très, très bien.
Oui, non, mais bien sûr que c'est un des fondamentaux de la foi, bien sûr, c'est pas une nouveauté. Mais est-ce que c'est réellement vécu, quoi? Voilà, c'est ça la question. Comment, moi, je sais que dans ma famille, lorsque j'étais enfant moi-même, il y avait, par exemple, alors c'est symbolique, hein, mais il y avait la place du pauvre. C'est-à-dire qu'à table, il y avait un couvert pour la personne qui pouvait frapper à la porte ou la personne seule qu'on trouvait à la fin de la messe de minuit et qui était isolée et qu'on allait inviter chez soi. Voilà, et je trouve que moi, j'aurais envie qu'on christianise Noël dans ce sens-là. Je parle pour les chrétiens, hein. Loin de moi toute idée de prosélytisme, je suis un anti-prosélyte notoire. Hein.
Je reviens, je parle
de christianiser chez les chrétiens.
Je reviens à Alain Cabantous sur ce que vous nous disiez un peu plus tôt. Au XIXe siècle, Noël se recentre sur deux éléments fondamentaux, à savoir l'enfant, les enfants d'un côté, la famille de l'autre. Est-ce qu'il a existé au cours de l'histoire, à partir de cette période, une critique de Noël comme Noël fête bourgeoise?
Alors, Noël fête bourgeoise, ça c'est... C'est une construction, enfin, qui n'est pas forcément complètement fausse, mais c'est une construction qui est venue à la fois de la manière dont on fêtait Noël au XIXe siècle, dans la mesure où, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne parvenaient pas à avoir un repas particulièrement riche, pouvoir acheter des cadeaux pour leurs enfants. Enfin,
le cadeau est récent aussi. D'ailleurs, on fait cette parenthèse, mais le cadeau donné à l'enfant naît au 19e siècle. Je me trompe pas?
Oui, enfin à l'enfant, oui. Voilà. Il y a un décrochage là social, alors que précédemment, enfin en gros, disons jusque dans les années 1820-1830, Noël, c'est pour les chrétiens qui la fêtent, enfin, je me situe dans le cadre européen, c'est une fête à la fois collective et une fête familiale. C'est les deux à la fois. Autrement dit, on se réunit en famille avant d'aller à la messe de minuit là, ou avant d'aller au temple le 25. C'est une fête collective et c'est une fête collective au sens, je dirais, festif du terme. C'est-à-dire que c'est pas simplement aller à la messe avec parce qu'il y a des éclairages partout, etc., de l'encens, de la musique, des Noël. Non, c'est après on continue. Il y en a qui vont danser, enfin, etc. Il y a tout un ensemble. Et ça va se déliter au cours du 19e siècle. On va recentrer à la fois sur l'enfant et sur la famille pour, effectivement, ce que vous avez appelé le Noël bourgeoise, mais je comprends très bien. Et en même temps, toute la dimension festive de la jeunesse, par exemple, va disparaître petit à petit. Alors, ce que je voudrais terminer par dire, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui, et c'est ce que Laurent Jubowski disait tout à l'heure, la question des générations. C'est pas simplement la question des générations, les vieux, les moyens et les jeunes, c'était aussi les morts. La fête de Noël, c'est une fête pas des morts, mais c'est une fête avec les morts. Et ça, on l'a complètement oublié aujourd'hui. Et cette histoire d'assiette dont vous parliez tout à l'heure, eh bien...
Et de place laissée aux pauvres qui frappent à la porte.
Eh bien, on laisse ça aussi aux morts. Autrement dit, on laisse les restes du repas aux morts pendant la nuit, pour qu'ils viennent se nourrir. Autrement dit, c'est les morts de la famille dont je parle, bien sûr. Hein, c'est pas les... voilà. Mais c'est une fête avec les morts, qui joue un rôle qui a complètement disparu, parce que comme les morts ne consomment pas, évidemment, ça devient compliqué.
Alors parlons de consommation, justement, et autre élément de crispation lié à Noël, le fait que Noël, les décorations de Noël, le commerce lié à Noël commence désormais pratiquement au mois de septembre.
Commencez quand la période de Noël ?
Ben, en décembre, ouais.
Et si par exemple on commençait en septembre-octobre, vous en pensez quoi ?
Là, il y aura un problème quand même.
C'est trop tôt. Parce que, enfin, faut quand même que ça reste un truc un peu exceptionnel et tout, quoi.
Entendre Mariah Carey dès le mois d'octobre, c'est un peu relou, quoi. Donc, ouais.
Je partage totalement son opinion.
Chaque année, on a l'impression que les magasins passent en mode Noël de plus en plus tôt. Les premiers calendriers de l'Avent apparaissent dans les supermarchés. On commence à entendre les tubes de Noël. It's beginning to look a lot like Christmas. Et les décos envahissent les rayons alors qu'on n'a même pas passé Halloween. Ce phénomène a un nom, le Christmas creep.
People are calling it the Christmas creep.
Christmas creep.
Christmas creep.
Alors Laurent Gibovski, Noël, c'est désormais une fête et sécularisée et qui dure 4 mois ?
Oh, qui dure 4 mois, peut-être pas, parce qu'entre-temps, il y a d'autres opérations commerciales quand même. Il y a Halloween, il y a Black Friday, donc ça va. Ils ont ça, du côté des multinationales, ça se passe bien. Et des jouets chinois, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas besoin de Noël, il y a déjà des opérations commerciales. Non, moi, je distinguerais. Alors, vous avez mis dans le même sac la consommation et la décoration. Moi, je distinguerais, parce que je pense que notre société, aujourd'hui, a besoin de fêtes. Il y a besoin de fêtes, il y a besoin d'éclairage, il y a besoin... C'est beau, les rues éclairées. Il y a besoin de joie. La joie, pour moi, est une vraie valeur. Et je pense que Noël, quelque part, ça, pas pour tout le monde, hein. On a parlé des personnes isolées, j'ai parlé personnellement des gens de la rue, mm-hmm. des migrants dans les camps, donc c'est pas la joie pour tout le monde, hein, et c'est pas la fête pour tout le monde. Mais en tous les cas, il y a un aspect fête et joie qui me paraît très important à cultiver. Alors ça, pour le coup, et pour moi, ça n'a pas de couleur, la joie. Il n'y a pas besoin d'être chrétien, ou de... Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le fond de Noël. C'est pas de défendre, encore une fois, un drapeau chrétien, c'est le fond de Noël. Et je pense que la joie et la fête, ça, c'est important. Donc, les décorations, ça me gêne pas. Et voilà. Et puis, même les vitrines, à la limite, bon, même s'il y a un intérêt derrière, évidemment. Non, c'est vraiment la dimension mercantile qui me gêne énormément, et le fait qu'aujourd'hui, on n'imagine pas, enfin, il y a des gens qui commencent à l'imaginer, heureusement, mais on n'imagine pas un Noël sans pléthore de cadeaux, des trucs monstrueux. Moi, je vois aujourd'hui des gens, et des chrétiens notamment, qui essayent de christianiser Noël personnellement, intérieurement, mm-hmm. et qui vont, par exemple, ne plus faire de cadeaux matériel. Ça va être des cadeaux. Je t'invite, on va aller faire une marche en forêt pendant une journée. Je passe du temps avec toi. Voilà. Ça va être un papa, une maman qui vont dire à leur enfant qu'est-ce qui te ferait plaisir ? On va aller passer une journée quelque part où je vais prendre du temps pour dessiner avec toi. Ou... Ça, ce sont des cadeaux, je dirais, relationnels. Voilà. Et donc, on peut dématérialiser aujourd'hui les cadeaux et on n'est pas obligé d'ouvrir sa carte bancaire à longueur de temps. Ce qui est important, c'est le lien, c'est la relation. Et Noël est une fête de liens et de relations, et c'est ça qu'il nous faut cultiver.
Alain Cabantous, cette composante commerciale de la fête de Noël, quand est-ce qu'elle s'accélère dans l'histoire ? Est-ce que c'est le fruit, le produit là du XXe siècle et de la société de consommation telle qu'on l'entend ? Vous me faites déjà nom de la tête.
En gros, elle s'accélère à partir du Second Empire, quand se développent les grands magasins. En France, en tous les cas, et en Angleterre, c'est la même chose, ou en Allemagne. Enfin, pays germanique. Pourquoi ? Parce que les grands magasins, alors je ne sais pas qui a eu cette idée géniale, publient des catalogues de plus en plus gros, avec des tas de jouets, et qu'on envoie partout. On a trouvé l'exemple d'un professeur de latin au Collège de France qui vivait dans le Limousin très pauvrement, et il disait, de toute façon, on avait une voisine qui recevait le catalogue du bon marché. Et ça, c'était mon Noël. Je feuilletais les jouets que je n'aurais jamais.
Le cadeau, c'était le catalogue.
Pour lui, le cadeau, c'était les jouets du catalogue, parce qu'il savait très bien que ses parents ne pouvaient absolument pas lui fournir ça. Et donc, progressivement, on a eu affaire à, je dirais, une société de consommation qui s'est quand même beaucoup accélérée après 1945, hein, quand même. C'est parce que avant, pendant les deux guerres, entre les deux guerres, on a quand même beaucoup d'exemples de jeunes enfants qui ne recevaient quasiment rien. Enfin, l'histoire de l'orange ou de la pipe en sucre, c'est pas quelque chose de faux, au contraire. Ou le cadeau qui n'existe pas, par exemple, les enfants qui mettent leurs chaussures, leurs sabots, et puis qui, le lendemain matin, ne reçoivent rien.
Un mot sur le sapin de Noël également. Vous avez donné une interview à Libération à ce sujet, expliquant, au fond, que le sapin de Noël, sa globalisation, c'était là aussi un symbole, un vecteur de la sécularisation de la fête de Noël.
Oui. Je suis en train de réfléchir tout bas.
Aux arguments que vous avez donnés.
Oui, oui. C'est un exemple que je donne effectivement, mais initialement, quand même, à partir du 14e, 15e siècle, quand on a les premières traces archivistiques, le sapin de Noël, c'est pas un sapin individuel, c'est un sapin collectif, mais qu'on met dans l'église. Qu'on met dans l'église comme symbole de l'arbre toujours vert, l'arbre de vie, l'arbre qui relie le ciel et la terre, le Christ comme symbole de l'arbre, enfin, etc., etc. Et ce n'est que très progressivement, au 19e siècle, là encore, hein, que on va en faire un élément individuel. Mais un élément individuel qui ne va pas forcément, je dirais, contribuer à séculariser les choses. Et dans beaucoup d'endroits, il n'y avait pas de sapin de Noël. Dans beaucoup d'endroits, on ignorait le sapin de Noël. Ça, c'est alors pour des fois des tas de raisons. Par exemple, on disait bah oui, mais c'est une invention allemande. Donc après la guerre de 70, pas question d'avoir ce qui est pas tout à fait juste, bien sûr. Mais enfin bon, bref, c'était des choses comme ça. Et donc c'est surtout encore une fois à partir des années 50, 1950, que on va voir se développer les marchés de sapins et progressivement, les gens. Mettre un sapin comme il mettait une crèche précédemment. Mais ça change. Le sapin ne se substitue pas à la crèche, hein, dans beaucoup d'endroits. Non, c'est le sapin et la crèche. Puis après, ça va être que le sapin, sans la crèche.
Laurent Gibowski, Noël est-elle la fête la plus importante pour les chrétiens ? Est-ce plus important que Pâques, que le 15 août ?
Je ne sais pas si c'est la plus importante, parce que je pense que moi je la mettrais sur un plan religieux, je la mettrais au même plan que la fête de Pâques. Par contre, là où elle est la plus importante, c'est que c'est la plus populaire. C'est la plus populaire, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est l'occasion d'avoir finalement un partage au-delà des frontières. Moi, je suis contre les frontières, de toutes sortes d'ailleurs, et notamment voilà les frontières entre les convictions, entre les religions, entre les États même, enfin il en faut, mais je suis pour des frontières poreuses, voilà, pour que ça soit des lieux de communication, les frontières. Et donc, je trouve que Noël est une fête sans frontières, c'est ça que je trouve intéressant. Il y a quelque chose, l'expression m'est venue à l'instant, j'avais jamais osé dire ça, mais je pense qu'il y a le côté populaire, je trouve, est très intéressant. Donc, c'est certainement... pour les chrétiens, c'est une fête, là aussi, il faut s'en rappeler, il y a quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire que pour les chrétiens, c'est de dire que Dieu n'est plus au ciel, plus seulement au ciel, enfin, avec ce que représente le ciel, c'est-à-dire la transcendance, l'inaccessible, etc., mais qu'il est au milieu de nous, qu'il est là, que c'est dans la rencontre de l'autre, dans la rencontre du faible, du petit, et j'y reviens, parce que quand même, cette crèche, c'est sympathique. Enfin, je crois que c'est saint François d'Assise qui a contribué à développer les crèches. Enfin, c'est ce que dit la légende. Je ne sais pas si c'est ce que dit l'historien. Mais en tous les cas...
L'historien fait oui, non, on ne sait pas trop. Oui.
Si. Mais... On peut dire ça comme ça.
Pardon, Laurent Gibowski.
On dit que ça a été inventé par saint François d'Assise pour la dévotion populaire. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est une famille de sans-abri. C'est une famille qui fuit la répression militaire. C'est une famille qui va partir à l'étranger, qui est migrante. C'est une famille recomposée à sa manière. Enfin, donc ça fait beaucoup. Enfin, je veux dire, faut se rappeler quand même de ce qu'était Noël au départ. C'était une épreuve. Ça a été une épreuve pour cette famille-là, vraiment. Et je trouve qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Voilà.
Merci à tous les deux de cette discussion, de ces explications, de ce débat. Alain Cabantous, historien, professeur émérite à Paris 1. Laurent Gibowski, journaliste à l'hebdomadaire Témoignages Chrétiens. Merci à vous deux. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël ou de très bonnes fêtes, c'est selon. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Antoine Néral, Mathias Mégis, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancey. Et à suivre après le journal, une question: comment détermine-t-on les prix sur le marché de l'art ?